L'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Ce soir, nous célébrons la République.
Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can.
L'atelier du pouvoir.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver pour ce nouvel Atelier du Pouvoir, l'émission qui chaque samedi de 12h45 à 13h30 sur France Culture vous propose un autre regard sur la politique pour mieux en comprendre l'histoire, les pratiques et le fonctionnement. Alors, il est une expression qui revient sur toutes les bouches depuis une dizaine de jours, à la faveur de la publication des confidences pour le moins imprudentes faites par François Hollande aux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Cette expression, c'est celle de fin de règne, comme si, tout d'un coup, à quelques mois de l'élection présidentielle, la situation de ce président, pourtant depuis longtemps si impopulaire, avait basculé dans autre chose, une sorte de crépuscule irréversible. Alors, est-ce là un destin inévitable pour tout locataire de l'Élysée ? En quoi cette fin de règne à laquelle nous assistons aujourd'hui est-elle singulière ? Voilà ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui, mon cher Vincent.
Loin d'être anecdotique, les fins de règne en disent long sur notre système politique. Elles diffèrent bien sûr selon les circonstances, mais en même temps, elles partagent quelque chose de commun. Elles cristallisent ce moment où le pouvoir échappe à son détenteur, où par mille détails, on réalise que le roi est nu. Des collaborateurs qui prennent leur distance et demandent à être recasés, des langues qui se délient pour critiquer ouvertement ce que quelques mois plus tôt, personne n'osait dénoncer, le sentiment que le pouvoir n'imprime plus sa marque ni son influence et que l'opinion et les médias ont déjà la tête ailleurs, les yeux rivés sur un possible successeur. Les fins de règne nous parlent de la personnalisation du pouvoir que beaucoup jugent excessive sous la Ve République et qui font du président un monarque dont les moindres signes de faiblesse sont décortiqués et cruellement commentés. Elles évoquent le temps du politique, dont les ruptures sont de plus en plus marquées et de plus en plus rapides. Un temps dans lequel la distance entre l'illusion de l'élection et la déception, voire la haine du vainqueur d'hier, est de plus en plus faible. Elles marquent enfin soit la conclusion d'une époque comme à la fin du quinquennat de François Mitterrand, crépuscule d'un socialisme au pouvoir pendant 14 ans, soit le début d'une autre, potentiellement porteuse d'avenir pour une famille politique, comme la fin du quinquennat Chirac, qui marquait l'avènement de la droite sarkozyste. Quels sont les aspects communs qui caractérisent les fins de règne ? Quelles formes ont-elles prises sous la Ve République ? Quelles en sont les conséquences lorsque le pouvoir s'évanouit pour de bon ? Ce sont quelques-unes des questions que nous aborderons aujourd'hui avec nos invités dans ce nouvel atelier du pouvoir qui pose la question à quelques mois de l'élection présidentielle. À quoi reconnaît-on une fin de règne ?
Nos invités, tout d'abord l'historien Michel Vinocq, professeur émérite à Sciences Po, éminent spécialiste de notre vie politique contemporaine, auteur de très nombreux ouvrages, dont une récente biographie de François Mitterrand chez Gallimard, mais également d'un rapport sur la rénovation de notre vie politique, issue d'une mission co-présidée avec Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle « Refaire la démocratie, 17 propositions » et c'est publié cet automne chez Thierry Marchès. À vos côtés, la journaliste Sylvie Maligorne, rédactrice en chef adjointe au service France de l'AFP, ancienne chef du service politique, auteur notamment du livre « Duel au sommet », un récit de la cohabitation douloureuse entre Chirac et Jospin, paru en 2002 aux éditions du Seuil. Et puis pour notre séquence internationale, nous irons aujourd'hui en Allemagne avec Thomas Hanke, correspondant à Paris du quotidien économique Handelsblatt, avec qui nous demanderons si les récents revers électoraux subis par la CDU, le parti d'Angela Merkel, sont le signe d'une usure irréversible du pouvoir pour la chancelière.
Des règnes, on en a connu dans la République. Ils ont duré souvent longtemps. Parfois, ce fut une épreuve, mais jamais à ce point. Là, il y a comme un condensé, hélas, sur une période qui n'en finit plus, de tout ce qu'il ne faut plus faire. L'irresponsabilité d'abord. Souvenons-nous que Jacques Chirac a été élu, dans les conditions que l'on sait, le 5 mai 2002, par un réflexe qui demeure, je l'espère encore aujourd'hui, celui de la défense de la République. Ce mandat aurait dû l'engager. Or, plutôt que d'en être fidèle, il s'en est écarté. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il pratique l'irresponsabilité. Et face à des crises successives, le président de la République reste silencieux et ne prend pas sa responsabilité. Je pense que c'est là qu'on arrive à la crise de régime. Parce que nos institutions devraient normalement être fondées sur ce principe de responsabilité. Or, le président de la République, nul ne peut l'atteindre, y compris même sur le plan pénal. Si les pratiques ne changent pas, si la conception du pouvoir reste la même, et notamment fondée sur la personnalisation, car il s'agit de cela, cette personnalisation, cette concentration du pouvoir exige qu'il y ait de la part de celui ou de celle qui l'exerce de la prudence démocratique, de la réserve politique au sens où il faut changer le pouvoir. Et si la gauche elle-même doit abattre sa coulpe, c'est peut-être non pas simplement de ne pas avoir fait évoluer suffisamment les institutions, mais de ne pas avoir, notamment avec la présidence de François Mitterrand, changé le pouvoir.
C'était François Hollande, vous l'avez reconnu, il était interviewé par Nicolas Demorand dans les matins de France Culture, nous étions le 15 mai 2006, et Michel Vinocq, on a quasiment l'impression qu'il pourrait parler de lui-même, appliquer les mêmes mots à lui-même. Aujourd'hui, l'irresponsabilité, la fin de règne, un condensé, dit-il, la fin du mandat de Jacques Chirac, de tout ce qu'il ne faudrait pas faire, Michel Vinocq.
Oui, je n'avais pas reconnu d'emblée la voix de François Hollande, et je me disais que j'étais pleinement d'accord avec tout ce qu'il disait. Et ces mots se retournent contre lui. Et en particulier, le mot « irresponsabilité ». Et voilà une anomalie. Une anomalie de notre pratique politique depuis les débuts de la Ve République. Une anomalie qui n'est pas dans le texte constitutionnel. Puisque dans le texte constitutionnel, c'est le Premier ministre qui conduit, qui mène la politique de la France. Mais en fait, depuis le général de Gaulle, c'est le président qui a tous les pouvoirs et qui en même temps n'est pas responsable. Ce qui est évidemment impossible à pratiquer démocratiquement.
Sylvie Maligorne, bonjour.
Bonjour.
Quand vous entendez François Hollande donner quelques-uns des ingrédients d'une fin de règne, vous qui avez quand même une véritable et longue expérience de la vie politique française, comment est-ce que vous définiriez vous-même ce que c'est qu'une fin de règne? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour que ça donne l'idée d'une fin de règne, où on se dit là c'est fini, c'est terminé?
Ben, c'est quand on fait des tas d'erreurs, il en a fait beaucoup. Là, il demande de la réserve, et là, il n'a plus la réserve qu'on impute à un chef de l'État, et c'est tout à fait frappant parce que ce qu'il reproche à Jacques Chirac, hein, il le fait lui-même là en ce moment, et c'est tout à fait, enfin c'est très étonnant. Il a conceptualisé la présidence qu'il voulait mener, une présidence responsable, normale. Il voulait que la parole soit d'un président soit écoutée, et de fait, elle ne l'est plus.
C'est à ce moment-là, quand on est journaliste, qu'on se dit il y a une fin de règne, c'est quand on a l'impression qu'une parole n'imprime plus.
Ah oui, c'est ça. C'est très frappant dans le cas de François Hollande. Maintenant, il peut faire n'importe quel discours, des très beaux discours, le discours de Wagram. Alors ça satisfait beaucoup ses amis politiques sur la démocratie. Mais en fait, vous notez que ça n'imprime absolument pas dans l'opinion publique. Tout ce qu'il peut dire maintenant est inaudible. Et c'est là où on se dit c'est vraiment la fin.
Michel Vinocq, vous qui avez étudié de près la Ve République, consacré plusieurs ouvrages à cette période, comment est-ce que vous définiriez justement une fin de règne, hein ? Sylvie Maligorne disait, l'un des ingrédients essentiels, c'est justement quand la parole de l'homme d'État n'imprime plus. Quelles sont les autres caractéristiques d'une fin de règne à votre avis ?
Il y a une variété, évidemment, de fin de règne. Je dirais que les deux premières fins de règne s'inscrivent un peu dans un registre quasiment shakespearien. C'est de Gaulle, qui semble intouchable et qui, finalement, est battu sur un référendum perdu. Entre parenthèses, au moins là, il y avait un cas de responsabilité. Puisque depuis, n'est-ce pas, on ne pratique plus ce genre de plébiscites, comme on les appelait, et que du reste, pendant 5 ans désormais, le président n'est responsable d'aucune façon. Comme le disait du reste François Hollande, que nous avons entendu. Donc il y a ce côté dramatique.
Ça c'est pour de Gaulle.
Mais de Gaulle, il y a eu avant ce référendum, évidemment, 68. Et là, cet épisode de 68 a quelque chose de dramatique, d'extraordinaire, avec la disparition de la scène du président de la République. Voilà, il disparaît. Le 29 mai, il n'y a plus de président. L'Élysée est vide. Bien sûr, il reviendra le lendemain. Et on racontera, ça c'est le récit officiel, que c'était une suprême stratégie. Bon, mais en fait, il y a eu une défaillance quand même du chef de l'État, sans doute indiscutable. Alors, ensuite, Georges Pompidou.
Je vous interromps avant de parler de Pompidou, c'est ça le début de la fin, c'est quand il y a une vacance du pouvoir, d'une certaine manière, Sylvie Maligorne ?
Bah, tout à fait, c'est aussi le
une
fait que...
Une forme de vacances, hein,
une
qu'elle
forme
soit
de vacances,
ou...
mais à la fois, c'est les gens, l'opinion publique, sent qu'il y a un manque, il y a une faiblesse, et c'est l'Alali, ils y vont à fond, et c'est ce qu'on a remarqué, bah, pour mai 68, c'était ça, et c'était le début de la fin aussi pour le général de Gaulle. Vraiment, là, tout le monde s'est lâché, et ce qui se passe actuellement, c'est exactement la même chose, tout le monde se lâche, il n'y a plus de respect.
Michel oui. Vinocq, vous voulez poursuivre ?
Je dirais plus que c'était un vide, vous vous rendez compte, la disparition des chefs de l'État, laissant même son Premier ministre dans l'incertitude totale, dans l'ignorance de ce qu'il faisait. Donc il y a eu un choc émotionnel qui annonçait, qui annonçait quelque chose, une fin. Et c'est évidemment Georges Pompidou qui en a tiré les fruits, puisque lui est resté fidèle à son poste, a su gérer la crise, et les Français ont transféré quelque peu, n'est-ce pas, leur confiance du général de Gaulle à Pompidou. Le général a voulu rétablir la situation, premièrement en changeant de gouvernement. Bon, il a appelé Couve de Murville pour remplacer Pompidou, et puis ensuite... en s'adressant aux Français, selon son habitude, par le référendum, en leur demandant de renouveler leur confiance, et là, il perd. Donc, il y a eu quelque chose, c'est un scénario extrêmement dramatique, intéressant, finalement, avec Georges Pompidou, nous aurons un autre scénario, mais aussi dramatique, tragique, c'est la mort.
On se rend compte d'ailleurs dans ce que vous dites que, en effet, il y a deux scénarios de fin de règne, soit la mort, la maladie, ce sera le cas de Georges Pompidou, de François Mitterrand par exemple, et de Jacques Chirac dans une certaine mesure, soit l'impopularité. Il y a un cas assez intéressant dans ce que vous disiez quand vous parliez du général de Gaulle, c'est le fait que finalement ce qu'on aimait dans le général de Gaulle au début de son mandat, c'est ce qu'on a fini par détester à la fin. On voudrait vous faire écouter justement Alain Duhamel qui parle de cette situation, alors non pas pour le général de Gaulle, mais pour Valéry Giscard d'Estaing. On l'écoute.
Giscard, en 74, a donné une image de jeunesse après les années de Gaulle et les années Pompidou. De Gaulle, à cause de sa stature historique et de son âge, Pompidou, à cause de sa maladie. Il a donné une image de jeunesse et au sens propre de séduction, qui après n'a plus existé. Il y avait au départ une séduction Giscard. Et puis c'est vrai que cette séduction, ben, comme toujours, elle s'est érodée devant le pouvoir, devant les difficultés, devant les échecs qu'il y a eu. Et certaines des choses qui, au fond, avaient flatté les Français. Les Français étaient assez fiers, en 74, de Giscard. Ils se disaient, non seulement il est brillant, ce que tout le monde reconnaissait, mais il a de l'allure. Il est à la fois moderne et monarchique. Alors ça plaisait aux Français. Et puis, quand les choses ont mal tourné, ça s'est inversé. Et ce qui le rendait populaire au départ est devenu ce qui l'a rendu moins populaire après. Au départ, on disait, il a de la classe. Quand même, il représente bien la France à l'étranger. Et à la fin, on disait, c'est un aristocrate, il est loin du peuple, il ne nous comprend pas, on ne vit pas dans le même monde. Et c'était d'ailleurs en partie vrai, inévitablement. Et lui-même, comme vous le disiez, a ressenti cet enfermement progressif qui devient une distance progressive avec ceux qui l'ont élu et a fortiori avec ceux qui ont voté contre lui.
Le journaliste Alain Duhamel, le 9 octobre 2014, dans Affaires Sensibles, l'émission de Fabrice Drouel sur France Inter. Sylvie Maligorne, ce qui est intéressant dans ce que dit Alain Duhamel, c'est que finalement, les germes, ou en tous les cas, les caractéristiques d'une fin de règne, peuvent être contenus déjà dans le début du mandat. En l'occurrence, il dit, les qualités qui étaient prêtées à Valéry Giscard d'Estaing se sont retournées contre lui à la fin. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui avez suivi les septennats et quinquennats de Chirac, de Sarkozy et de Hollande, qu'on peut appliquer la même démonstration ?
Je pense que c'est assez vrai, mais je pense aussi que... Ces qualités se retournent contre les personnalités en question à partir du moment où il y a un problème donc la crise sociale, la crise économique pour Valéry Giscard d'Estaing, et que dans ce cas-là, on cherche, les journalistes cherchent les failles dans le système. Et ils trouvent des affaires pour Valéry Giscard d'Estaing. Il y a eu l'histoire des diamants, ses chasses en Afrique. Tout ça est ressorti. Et je pense que les journalistes n'auraient peut-être pas à ce point-là poussé la chose s'ils n'avaient pas senti une faiblesse, s'ils n'avaient pas senti qu'il était en position délicate compte tenu de la politique qu'il menait.
Alors c'est vrai, il y a des circonstances, mais en même temps, pour revenir sur l'idée que ce qu'on a aimé se retourne contre soi, on peut penser par exemple à je sais pas, Nicolas Sarkozy, dont on aimait l'énergie et ce rapport décomplexé, un certain nombre de choses, devient l'accusation de bling-bling et de vulgarité. Hollande, le président normal, on le critique parce que justement, on l'accuse d'être incompétent. Est-ce que Michel Vinoc ou Sylvie Maligorne, il n'y a pas finalement quelque chose de ça?
Il ne faut pas oublier la conjoncture. Parce que... Le règne, puisqu'on parle oui, de règne de Giscard, s'inscrit, n'est-ce pas, dans cette conjoncture de la fin des Trente Glorieuses, que les chocs pétroliers successifs, n'est-ce pas, vont placer la France dans une situation inconnue depuis la Libération, et que, en raison de la montée du chômage, en raison de l'inflation, de toutes les conséquences de la crise économique, ce qu'on appelle la crise, maintenant on sait que c'est pas une crise, c'est une véritable régression économique ou stagnation économique. On ne va pas lui pardonner, et on ne pardonnera surtout pas à son premier ministre Raymond Barre, qui lui a son franc-parler, qui dit carrément les choses et dit en gros aux Français, il faut se serrer la ceinture. Donc, n'oublions pas la conjoncture, hein, qui compte évidemment. Alors, 7 ans, c'était 7 ans à l'époque, évidemment, c'est long. 7 plus 7, c'est encore plus long. Et les meilleurs présidents, les meilleurs candidats s'usent. On l'a vu avec De Gaulle, n'est-ce pas? On le voit avec Giscard et on le verra avec Mitterrand. Mais, encore une fois, faut, je crois, resituer à chaque fois les fins de règne dans la chronologie.
Sylvie, oui, Maligorne, pour la période plus récente que celle qu'évoquait Michel Vinoc, je pense à la période Chirac ou Sarkozy.
Mitterrand, on peut
appliquer aussi cette même grille de lecture, c'est-à-dire que la conjoncture, à un moment, est-ce que vous pouvez en parler pour Nicolas Sarkozy ou pour Jacques Chirac, par exemple?
Jacques Chirac, c'est un peu particulier parce qu'il était, c'était la cohabitation. Donc lui, il a été, cette fin de règne, pour lui,
c'était... Pour le premier quinquennat, en tout cas, oui.
C'est un septennat et un quinquennat. Donc, lui, il a été protégé parce qu'il n'était pas, en charge, comme on dit.
Il était dans une forme de cohabitation vis-à-vis de Nicolas Sarkozy dans le deuxième quinquennat, non?
C'était quand même pas Sarkozy qui était le premier ministre.
Voilà, c'est quand même très différent.
C'était Villepin.
Oui. Donc non, je pense que non, c'est pas du tout pareil là pour le coup.
Sylvie Valigarne, vous qui avez observé les derniers mandats présidentiels, est-ce que vous diriez, comme on a l'impression que c'est le cas avec François Hollande, que l'histoire s'accélère de plus en plus et que la fin de règne, d'une certaine façon, commence de plus en plus tôt, la désillusion par rapport à l'accession au pouvoir?
C'est certain, mais je dirais c'est aussi la multiplication des réseaux sociaux. Il y a plus de pare-feu, je dirais. Le président est en prise directe avec l'opinion et tout ce qu'il peut, tout ce qu'il dit, lui revient en boomerang. Il faut pas se louper. Hein. Ils ont pas une demi-seconde pour réfléchir, en fait. Hein. Et c'est vrai que ça va très très vite. Et les gens sont de plus en plus impatients. C'est vrai que le quinquennat a raccourci ce temps et qui fait que la seule année utile, c'est la première année. Et si vous la ratez, c'est fini.
Donc d'une certaine manière, la fin de règne commence après un an. C'est un peu triste. Michel Vinoc, justement, réfléchissons à cette question du temps en politique. On a parlé des moments de bascule, là où on a l'impression que c'est la fin de règne. Vous avez dit, d'une certaine manière, le général de Gaulle, c'était mai 68. C'est là le début de la fin de règne. Georges Pompidou, c'est probablement l'annonce de sa maladie. Giscard, la dernière année. Et alors, après Mitterrand, la fin de règne, c'est quoi? La cohabitation de 93?
Écoutez, si l'on s'en tient au sondage, François Mitterrand, dès 1983, chute, voit sa cote de popularité. Alors évidemment, cette cote de popularité est en dents de scie. Et ce qui va l'améliorer sensiblement, c'est la cohabitation. Car paradoxalement, les responsabilités se déplacent, n'est-ce pas? C'est le Premier ministre et cette fois l'homme de droite, Jacques Chirac, qui va polariser, par conséquent, les déceptions. Et que, en face, François Mitterrand, qui est toujours à l'Élysée, va être valorisé par le fait qu'il paraît être l'opposition, justement, aux excès de Jacques Chirac, et que sa cote de popularité va remonter très, 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 très haut.
Et dans le second septennat ?
Et alors, dans le second septennat, là, il y a un côté véritablement lugubre, sinistre, shakespearien.
Et c'est à partir de quand ?
92, 93 surtout. 92, c'est l'opération qui révèle quand même qu'il est malade. Hein. La révélation qu'il est malade. Mais 93. Alors, 93, les choses s'accumulent, là. Et il va y avoir le scandale des écoutes téléphoniques. Il va y avoir l'effondrement du Parti Socialiste aux élections législatives. Et tout va s'accélérer l'année suivante, en 94, où c'est une rafale de révélations d'événements qui vont discréditer François Mitterrand.
C'est du Maligan.
Moi, je dirais quand même, le début de la fin, je dirais, pour François Mitterrand, je le ferais remonter à l'éviction de Michel Rocard de Matignon, en 91, avec la nomination d'Édith Cresson. Et ensuite celle de Pierre Bérégovoy. On n'a jamais vu ça. Moi, j'étais permanente de l'AFP. Je suivais Matignon.
Et pourquoi dites-vous qu'on peut qualifier ces événements, ces décisions nommées Cresson, Bérégovoy de fin de règne? En quoi ça caractérise déjà une fin de règne pour vous?
Ça a été. Je dirais que c'était une mauvaise décision de François Mitterrand. Le fait qu'il ait confié Matignon à Édith Cresson, qui n'était pas vraiment préparée à ça. Et c'est vrai que ça a été une... Elle a fait 10 mois et demi, hein, seulement 10 mois et demi, ce qui est vraiment très peu. Elle a fait très vite impopulaire.
Je nuancerai un petit peu. Je suis d'accord
Il y avait
vous,
les affaires, déjà.
C'est surtout,
déjà.
C'est pas l'appel d'Édith Cresson, parce que elle est devenue impopulaire. Mais quand il l'appelle, elle ne l'est pas dans l'opinion.
Ça dure pas longtemps.
Non,
hein.
Ce qui a été très mal pris, c'est le renvoi de Michel Rocard.
Oui.
Parce que lui était populaire.
C'est le jeu d'impopularité, de la popularité. Si on continue, Jacques Chirac, c'est quand le début de la fin, d'une certaine manière? C'est le référendum de 2005?
Oui, enfin, pardon.
Nous sommes d'accord.
Là, il s'investit dans ce référendum. Hein, lui, qui avait été jadis anti-européen, est devenu pro-européen. Très bien, on évolue, c'est tout à fait respectable. Mais le référendum est perdu, Jacques Chirac est donc battu, et quelle conclusion en tire-t-il? Il va se contenter de changer de gouvernement, mais lui, contrairement à De Gaulle, il ne s'en va pas. Et là, il y a eu un choc, je crois, une dépréciation, une chute de popularité de Chirac à ce moment-là, c'est sûr.
Sylvie Maligarne, votre souvenir des années Chirac, justement, du moment où ça décroche, où le pouvoir n'est plus forcément à l'Élysée?
Je suis complètement d'accord avec le référendum de 2005. Paradoxalement, ça aurait pu profiter au Parti Socialiste, et pas du tout. Donc,
est-ce que vous, qui avez suivi cette période en tant que journaliste, vous aviez à l'époque conscience déjà que l'accident vasculaire cérébral qu'a eu Jacques Chirac cette année-là aussi a été un véritable moment de bascule et en tous les cas de vacances du pouvoir? Est-ce qu'on en avait conscience à l'époque, comme on le dit rétrospectivement?
Non, on n'en avait pas conscience. Enfin, pas conscience à l'époque. Quand il sort du Val-de-Grâce, il n'a pas l'air très diminué. Donc non, franchement, je trouve qu'on refait un peu l'histoire quand on dit oui, on a senti un basculement. C'est un peu exagéré, vraiment, vraiment.
Sur Nicolas Sarkozy, la fin de règne, Michel Vinocq.
Nicolas Sarkozy, ma foi, disons que son image s'est complètement détériorée.
À partir de quand?
Nous revenons sur ce que nous disions tout à l'heure, n'est-ce pas, à propos de ses qualités et ses défauts. Il a été élu parce qu'il faisait preuve, effectivement, de dynamisme, de jeunesse, d'entrain, d'une certaine simplicité aussi, que d'autres appelaient vulgarité. Bon. Et puis cette image s'est peu à peu détériorée, image au sens réel du mot, par la télévision, par son apparence physique, ses tics, ses façons de parler, etc.
Ça, c'est les critiques d'un président, mais à partir de quand? Vous pensez que, par exemple, le discours de juillet 2010 de Grenoble, par exemple, ou alors est-ce que ça sera la perte du triple A?
Vous savez, la France est divisée. La France de droite n'est certainement pas hostile au discours de Grenoble. Il se trouve que j'ai un petit souvenir personnel. J'ai été invité à des assises de l'UMP, c'était l'UMP à l'époque, n'est-ce pas, en tant qu'historien, pour donner mon avis sur la grande question, qu'est-ce que c'est que la droite ? J'ai fait allusion à ce discours de Grenoble.
C'était un discours dans lequel Nicolas Sarkozy proposait de déchoir de la nationalité les Français d'origine étrangère qui se rendraient coupables d'un crime contre une personne détentrice de l'autorité publique.
C'était un discours qui a été, je me souviens très bien, j'ai dit que c'était pas dans la ligne de la droite républicaine. J'ai été approuvé par une ou deux personnes, dont Monsieur Raffarin. Mais aussitôt s'est dressé quelques députés ou conseillers généraux dans la salle en me disant que c'était un discours remarquable. Donc ça dépend de qui on parle. Pour la gauche, bien sûr, mais pour la droite, je ne le crois pas.
Sylvie Maligan.
Ça a quand même boosté, je dirais, l'opposition. La gauche a fait son miel de ce discours. Et je dirais aussi que les centristes ont été très, très gênés par ce discours de
Nicolas. Oui, je faisais allusion à Raffarin.
Voilà, exactement. Enfin, ouais. Donc, je veux dire, il a cristallisé, il a boosté toute l'opposition interne et externe qu'il pouvait avoir.
C'est le début de sa radicalisation de droite, quoi.
Alors on va reparler tout à l'heure à l'aune de ce que vous avez dit sur ses prédécesseurs, de la situation quand même singulière de François Hollande aujourd'hui, eu égard à celle donc de ses prédécesseurs. Mais tout d'abord, nous allons faire un détour par l'Allemagne. C'est notre séquence internationale et vous, Sylvie Maligorn et Michel Vinocq, on se retrouve juste après.
France Culture, l'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Alors que nous approfondissons cette semaine la notion de fin de règne, nous avons donc décidé de vous emmener en Allemagne. Ce choix peut paraître surprenant dans ce pays dirigé par Angela Merkel depuis le mois de septembre 2005, alors que la chancelière se prépare pour un nouveau mandat après les élections générales de septembre, ou pour les élections générales de septembre en 2017, l'année prochaine. Pourtant, de nombreux médias allemands s'interrogent sur ce qui pourrait être l'automne de son pouvoir. Der Spiegel titrait récemment sur ce thème et le quotidien économique Handelsblatt employait même le terme de crépuscule de la chancelière, alors que la CDU a subi plusieurs défaites consécutives à des élections intermédiaires et qu'Angela Merkel est contestée pour sa politique d'accueil très généreuse à l'égard des réfugiés. Pour parler de cette fin de règne qui pourrait être en trompe-l'œil, de ses modalités et de ses causes, je reçois aujourd'hui Thomas Anke. Bonjour Thomas Anke. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes justement le correspondant à Paris du quotidien allemand Handelsblatt, fin connaisseur de la vie politique allemande, mais aussi de la vie politique française que vous suivez depuis longtemps. Alors, ma première question, elle porte vraiment sur ce terme de fin de règne. Est-ce qu'il est adapté à la situation que connaît aujourd'hui Angela Merkel ?
À mon avis, non. Parce que pour moi, fin de règne, ça signifie que le politique qui dirige le pays s'éloigne de la réalité. Il n'est plus en contact avec la réalité de la société. Puis le pouvoir lui échappe. Puis il s'établit une certaine arrogance. Est-ce que Merkel est arrogante ? Pas du tout. Elle est toujours très modeste. Un politique qui est en fin de règne, il a tendance à regarder plutôt le passé que le futur. Et puis, au lieu d'être un atout pour son parti, il devient une charge pour sa famille politique. Est-ce que c'est le cas avec Merkel ? Pas du tout. Elle est plus populaire que son parti. C'est quand même assez intéressant. Donc, je crois qu'on a vécu un fin de règne avec Helmut Kohl.
Alors justement, c'est quoi la différence entre une fin de règne et
Helmut Kohl ? Je peux vous donner, c'est une anecdote, mais c'est assez intéressant. À un moment donné, quand Kohl était déjà au pouvoir depuis des années, on lui a posé une question sur l'Internet. Ce qu'on appelait à ce moment-là le Data Highway. Et Kohl, il pensait qu'on parlait des autoroutes. Alors, il a fait tout un discours sur les autoroutes en Allemagne. Les autoroutes en Allemagne, c'est fantastique, on peut rouler très vite. Donc, il était complètement détaché de la réalité.
Ça nous rappelle d'ailleurs la situation où Jacques Chirac pensait que la souris était un mulot. Hein. Il appelait le mulot la souris de l'ordinateur.
Tandis que Merkel, elle est toujours à la manœuvre. Regardez cette semaine-ci. Le sommet sur l'Ukraine avec Poutine, Poroshenko et le président de la République. Donc, est-ce qu'elle est détachée du pouvoir ? Non, elle tient toujours les rênes. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'elle est devant un énorme défi avec cette crise des réfugiés, où elle a pris une décision qui, à mon avis, c'était la bonne décision. Seulement, elle ne l'a pas préparée, ni avec son parti, ni avec ses partenaires européens. Ce qui les a fâchés, surtout les Français aussi. Et après, elle n'a pas fait le nécessaire pour un suivi politique, pour préparer le pays. Pendant des mois, c'était la Bavière, au gouvernement de l'État fédéré de la Bavière. de vraiment gérer cette crise. Et c'est ça le problème, c'est ça qui a ébranlé un peu ses partisans, et qui un problème qui n'est toujours pas tout à fait résolu.
Alors, dans les 20 premières minutes de cette émission, on a parlé de la fin de règne en France dans un système présidentiel ou semi-présidentiel. À quoi ça ressemble, quand vous parliez par exemple d'Helmut Kohl, à quoi ça ressemble une fin de règne dans un système parlementaire comme en Allemagne?
Je crois que c'est différent, parce que dans un système parlementaire, vous êtes à l'épreuve tout le temps, tout le temps. Tout le temps, vous devez assurer votre majorité.
En Au France, Parlement
vous... Exactement. En France, vous avez le pouvoir pendant 7 ans avant, 5 ans maintenant. Et bon, évidemment, il y a les sondages, mais c'est pas tout à fait la même chose que devoir assurer la majorité avec, en plus, une coalition. Donc, c'est un test presque quotidien, que vous devez réussir. Et à mon avis, Merkel, elle le réussit toujours. Elle a toujours la majorité. Elle va très probablement gagner les prochaines élections.
Est-ce que ça veut dire pourtant qu'il y a une personnalisation moins importante du pouvoir politique dans le système
parlementaire ? On a maintenant la figure politique du candidat à la chancellerie. Mais c'est un phénomène relativement récent. On l'a depuis 10 ans. Après, il y avait les partis. Le système parlementaire, c'est un système qui est basé sur les partis et pas sur les grandes personnalités. Bon, depuis 10 ans, on a ce phénomène de la personnalisation, candidat à la chancellerie, en 2005, donc il y avait ce choix entre Gerhard Schröder ou bien Angela Merkel. Et donc, la personne du chancelier, de la chancelière devient plus importante. Du coup, si on a l'impression qu'elle est en train de glisser, de ne pas être tout à fait sûre, de ne plus prendre les bonnes décisions, ça a un impact immédiat sur le parti. Et en plus, ce qui a un effet super important, surtout dans cette famille politique des chrétiens-démocrates, vous avez les Bavarois, qui sont toujours plus à droite que les chrétiens-démocrates dans le reste du pays, et vous avez les chrétiens-démocrates. Au moment où vous avez une dissension entre les deux, où vous commencez à vous bagarrer, les Allemands n'aiment pas la bagarre politique. On aime l'harmonie. Et donc ça renforce cet effet de crise qui était déjà en gestation.
Alors c'est la question que je voulais vous poser sur l'opinion publique allemande. Hein. Dans quelle mesure réagit-elle finalement à ce qui est une sorte de crise, peut-être temporaire, vous le dites, de la popularité d'Angela Merkel? Est-ce qu'elle est moins populaire dans l'opinion aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques années?
Oui et non. Elle est actuellement, là, elle est à 54% de gens qui disent qu'ils sont en faveur de sa politique.
Ça ferait rêver François Hollande.
Exactement, oui. Même 34, je crois, lui. Mais bon. Et donc, de l'autre côté, il y a plus de 60% des Allemands qui disent qu'ils sont pas d'accord avec sa politique concernant les réfugiés. Donc, on voit très bien, c'est un problème, je vais pas dire un problème isolé, c'est trop important, mais c'est un problème vraiment dans un certain secteur de l'exercice du pouvoir qu'il doit résoudre. Et c'est pas cette fin de règne où vous avez vraiment une crise généralisée, où vous n'êtes tout simplement plus à l'auteur.
Alors finalement, Thomas Sanke, qu'est-ce que ces bruits de couloir autour de l'idée d'un mandat de trop peut-être pour Angela Merkel l'année prochaine, alors que nous sommes à 1 an des élections générales, qu'est-ce que ces bruits de couloir nous disent finalement du système politique allemand et de son évolution?
Oui, ça dit beaucoup de choses. D'abord, je crois que 11 ans au pouvoir, ça fait beaucoup. Il y a un problème en Allemagne, il n'y a pas de limite pour les mandats. Vous pouvez enchaîner les mandats de 4 ans. À la limite, Merkel pourrait faire 20 ans, 30 ans si chaque fois elle avait la majorité. Tandis qu'en France, c'est limité. Aux États-Unis, c'est limité. Et je crois que c'est mauvais. Le fait de ne pas avoir cette limitation des mandats, ça crée un certain effet d'usure au pouvoir, certainement. Mais aussi, vous ne laissez plus monter les nouveaux talents. C'est le problème des politiques, et surtout en Allemagne, où ils peuvent enchaîner les mandats, ils peuvent toujours, l'année prochaine sera encore moi. La prochaine législation sera encore moi. Et donc, vous faites tout pour couper les ailes aux jeunes. Tandis que si vous étiez malin, vous deviez les préparer pour préparer la relève. Mais ça, on ne le fait pas.
Michel Vinocq, en écoutant Thomas Sanke et son analyse des fins de règne en Allemagne, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui se passe chez nous, avec ce que nous avons décrit au cours des 20 premières minutes de cette émission, est-ce que fondamentalement les institutions jouent un rôle fondamental dans cette accumulation de fins de règne inévitable, à la différence de ce régime parlementaire que vient de décrire Thomas Sanke ?
Je vous dirais oui et non. Oui, certainement, parce que, et c'est la leçon qu'il faudrait tirer quand même de cette histoire de la Ve République, n'est-ce pas ? Il y a Il faudrait en finir avec le surinvestissement de la présidence de la République. Nous sommes, c'était l'expression du général de Gaulle lui-même, dans une monarchie élective, mais aujourd'hui, c'est fini. Nous ne voulons plus d'une monarchie élective. Je répète que le président de la République exerce pratiquement tous les pouvoirs et qu'il n'est pas responsable devant aucune assemblée. Donc, il faut changer cela. Mais un mot seulement sur ce qui vient d'être dit par Monsieur Anke. Derrière le problème des institutions, il y a aussi certainement ce qu'on pourrait appeler la mémoire collective, la psychologie collective, et que les Allemands ne sont vraiment pas les Français, et inversement. Les Allemands aiment le consensus et nous aimons le conflit.
Sylvie Maligan, sur cette question.
Et puis nous, on aime, enfin les Français aiment les rois, et on aime bien ça, on aime les encenser et on aime les déchirer. Et c'est très différent. Enfin, c'est vrai que la mentalité française et allemande, c'est pas du tout pareil. Et on a, on n'imagine pas ça.
Oui, nous sommes des monarchistes déicides. Des monarchistes, pas déicides, régicides. Des monarchistes régicides.
Pour entrer, Sylvie Maligorne, Thomas Sanko, Michel Vinocq, dans la dernière partie, dernière minute de notre émission, on voudrait vous faire écouter un de ceux qui a été le plus critiqué ou encensé pour ce titre de monarque républicain. C'est François Mitterrand, qui était interviewé à l'Élysée par Patrick Poivre d'Arvor et Paul Amar. C'était le 10 mai 1994. Il nous parle justement de la fin de ce pouvoir, la fin de règne.
Monsieur le Président, vous allez bientôt quitter le pouvoir. Un an encore à l'Élysée, c'est toujours un arrachement pour un homme politique. Est-ce que vous avez déjà l'idée de ce que vous ferez plus tard?
Non, ce n'est pas un arrachement. Écoutez, vraiment, est-ce que je vais me plaindre d'avoir eu le privilège immense d'être choisi deux fois par le peuple français pour présider aux destinées de la République? C'est beaucoup, je suis comblé sur le plan de l'ambition politique. Mais il est normal qu'il y ait un terme dans une république. C'est un phénomène d'usure, puis on va finir par lasser des gens qui vous voient toujours là.
C'était un peu long pour vous, 14 ans, parce que pour beaucoup de Français, ça a été long, pour vous, ça a
pour
été...
Pour les Français, c'était long, surtout pour ceux qui auraient préféré en voir d'autres ici, à ma place. Mais il y en a quand même beaucoup de Français, puisque vous me croyez, vous savez, qui n'étaient pas fâchés de me voir occuper cette fonction. Mais je crois pouvoir dire que toute œuvre est inachevée. Mais c'est-à-dire qu'elle reste au-dessous de l'espérance. Mais en même temps, on peut regarder derrière soi, si on a fait quelques mètres, quelques kilomètres sur le chemin qu'on s'est tracé, plutôt que de mettre le sac au bord de la route, de s'arrêter, épuiser, c'est qu'on a mené sa vie d'une façon, comment dirais-je, honorable.
François Mitterrand, donc le 10 mai 1994, un an avant la fin de son mandat. Michel Vinocq, on se rend compte que les fins de règne, des fois, je le disais dans la présentation de cette émission, c'est la fin d'un homme et dans d'autres cas, c'est la fin d'un camp. Alors dans le cas de François Mitterrand, on avait l'impression que c'était un peu la fin des deux, d'une certaine manière. Dans quelle situation on est aujourd'hui? C'est la fin d'un homme, si tant est que François Hollande est fini, parce qu'on peut encore
deux,
le dire.
Les deux, c'est pareil. Rappelez-vous de la déconfiture des socialistes aux législatives de 93. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de croire que c'est la fin. La gauche s'est fichue, les socialistes ne s'en remettront plus. Et on voit que régulièrement dans l'histoire, les partis vaincus, en particulier les partis de gauche, le parti socialiste, qui a connu des crises épouvantables, eh bien, s'en est remis. Pourquoi? Parce que nous avons évidemment besoin d'un parti de gauche solide en face d'un parti de droite solide, et que ça, c'est le béaba quand même de notre vie politique.
Sylvie Maligorne, sur ce point.
Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que j'ai observé deux cohabitations et en fait, les chefs de l'État ont adoré ce moment-là. Et regardez, pour François Mitterrand, c'est le vrai monarque, il était en cohabitation, donc il pouvait être monarque, et il a bien fini son règne grâce à la cohabitation, finalement. Donc c'est assez paradoxal quand même. En France, on adore ça.
Thomas Sanke, j'aimerais avoir votre regard. Vous nous avez parlé de l'Allemagne de façon fort savante il y a un instant, mais vous vivez en France, vous êtes journaliste en France, vous observez la vie politique française. Tout ce qu'on dit là, ça vous semble exotique, cette France, justement? Quel regard vous portez sur cette vie monarchique et ces fins de règne dont nous parlons?
Je commencerai par la phrase « Un Allemand ne devrait pas dire ça ». Mais ce qui me frappe en France, c'est quand même que à mon avis, le système présidentiel n'est plus vraiment en phase avec la réalité que nous vivons. Mais là, nous sommes devant un défi commun. Nous vivons dans les mêmes sociétés un peu, dans une société qui est en train de faire la transition digitale. Et donc, le système de représentativité politique n'est plus adapté à cette réalité. Donc, nos citoyens sont chaque fois mieux préparés, chaque fois mieux informés, mais ils ne peuvent pas participer. Donc, on parle des crises de la démocratie, c'est un peu ça, mais en réalité, c'est la volonté des citoyens de participer qui ne trouvent pas de chemin à se réaliser. Et c'est le même problème en Allemagne qu'en France. Donc, on peut longtemps parler des gens qui sont plus adaptés, qui perdent un peu le pouvoir, tout ça. Mais on est devant un problème un peu plus fondamental, je crois.
Vraiment, en conclusion de cette émission, il nous reste quelques minutes. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Michel Vinocq. Vous dites, attention, il y a des fins de règne qui n'en sont pas aussi. Hein. Alors, c'était peut-être pour donner de l'espoir aux auditeurs socialistes ou de gauche qui nous écoutent, qu'il y a des fins de règne qui n'en sont pas. Mais c'est vrai qu'il y a une fin de règne auquel on pense, par exemple, qui est la fin de règne apparente de Jacques Chirac pendant la première cohabitation de 87 à 2002. On pense que c'est vraiment la fin, et pourtant, ce n'est pas une fin de règne.
Oui, quand on dit fin de règne, c'est évidemment un événement limité dans le temps. C'est pas une fin définitive. Sinon, il n'y aurait plus d'alternance, il y aurait un camp qui l'aurait emporté définitivement. Donc il faut bien voir que nous sommes là dans une histoire avec des séquences, une histoire dramatique, avec des retours en arrière, des pas en avant. Il n'y a pas de fin définitive. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le climat d'aujourd'hui, on a bien le sentiment de vivre quelque chose qui se termine.
Sylvie Maligorne, sur ce point, est-ce que, à l'aune justement de toutes les fins de règne précédentes que nous avons commentées, celle que nous vivons actuellement vous semble d'une intensité singulière et unique ?
Ah oui, je pense que c'est tout à fait unique. On n'a jamais vu, par exemple, un président aussi lâché par ses amis politiques. Je pense à l'appel que devaient faire des parlementaires socialistes pour une candidature de François Hollande. Là, apparemment, ils peinent à trouver suffisamment de personnes pour appeler à une candidature de François Hollande. Donc ça n'a jamais été vu. Enfin, on n'a pas vu un truc pareil. Je crois pas. Enfin, je pense que c'est tout à fait inédit.
Thomas
Il est
Sanque,
tout seul.
Thomas Sanque, vous partagez cet avis aussi ?
Oui, tout à fait. Ce qui me choque, c'est vraiment ce livre dans lequel il parle comme s'il était déjà à la retraite depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui est toujours au pouvoir qui en plus a l'ambition de continuer, qui demain devra peut-être parler avec M. Poutine ou autre, desquels il parle en étant assez bizarre. Il ne devrait vraiment pas parler comme ça.
Merci à tous les trois, Sylvie Maligorne, Michel Vinocq et Thomas Sanque, de nous avoir fait partager vos analyses sur cette notion de fin de règne. Avant de nous quitter, Vincent, quelques suggestions de lectures et autres?
Oui, d'abord, je voudrais rappeler l'un des grands livres sur les fins de règne qui avait été très critiqué à l'époque, Le dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou, qui était paru en 1996, qui avait été le livre par lequel le scandale était arrivé, puisqu'il décrivait un Mitterrand en fin de règne, un homme à bout de force, et qui avait à l'époque provoqué l'ire des Mitterrandiens qui avaient considéré que cet ouvrage de l'ancien patron de l'hebdomadaire Globe, le fameux Promeneur du champ de Mars de François Mitterrand, était un affront à la statue du commandeur de l'ancien président tout juste disparu. Mais la grande qualité de cet ouvrage, quand même, avait été de dépeindre une fin de règne comme rarement dans un ouvrage politique, à la fois dans la nostalgie que ce moment procure et dans ses misères et aussi ses désillusions. Deuxième conseil, qui n'est pas un conseil de lecture mais un conseil de visionnage, ce sont les très beaux documentaires consacrés par Patrick Rothman au président François Mitterrand et Jacques Chirac. D'abord le François Mitterrand, le roman du pouvoir, qui était paru en DVD en 2001 chez Universal Pictures, et le Jacques Chirac, surtout le deuxième volet de son portrait qui s'appelait Le Vieux Lion, paru toujours chez Universal en 2006, parce que dans ces films, il y a tout ce qu'on aime dans la politique, de la poésie, de l'érudition politique et le sentiment qu'on apprend beaucoup de choses, et puis surtout la retranscription de cette mélancolie qui agite ces présidents lorsque les jours de leur pouvoir viennent à leur terme, donc à voir et à revoir. Et puis enfin, un joli documentaire de Jean-Michel Jean qui officie souvent sur France Culture, qui s'appelle Solitude du pouvoir, qui devrait être diffusé prochainement sur France Télévisions, qui nous parle peut-être de ce qui caractérise le mieux à la fois le début puis la fin de cette règne, c'est-à-dire le fait que les présidents sont malgré tout seuls.
Merci mon cher Vincent. Toutes ces références, vous les retrouverez sur notre page Facebook ainsi que sur le site de France Culture où vous pourrez également réécouter cette émission en podcast comme toutes les autres que nous faisons. C'est la fin de cet atelier du pouvoir, une émission de Vincent Martini et Thomas Vider préparée par Antoine Dulster.
réalisé par Vincent Abouchard et à la technique aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontani. La semaine prochaine, on se retrouve, Vincent, et de quoi parlerons-nous ?
Eh bien, période de pré-campagne oblige, nous parlerons du financement des campagnes électorales et surtout des campagnes présidentielles.
C'est noté, rendez-vous samedi prochain.